L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 juin. Jeudi 17 juin, encore sous le soleil, sous les orages, on ne sait pas trop. En tout cas, ce midi, au moment où on enregistre l'émission. Je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent le soir, hein, puisque je sais qu'il y en a aussi qui nous écoutent le soir en différé. Mais là, en direct, tout de suite, maintenant, le midi, il fait beau. Et il fait beau et c'est fantastique. On dirait que je me transforme en Claire, mais une très très mauvaise imitation. Claire qui est d'ailleurs avec moi en studio. Salut Claire.
Et oui, salut Marie, salut tout le monde. Et je vais même dire quelque chose peut-être qui va étonner tout le monde, mais ça fait du bien qu'il fasse un peu frais. J'avais trop chaud hier.
Je plus sois, même dans le... Là, du coup, dans le studio, forcément, comme dans d'autres métiers, il y a les machines et donc du coup,
oui,
il fait chaud aussi. Il fait chaud, et... mais ça ne nous empêche pas dans tous les cas de poursuivre l'émission. Émission qui sera aussi en compagnie de Juliette. Salut Juliette.
Salut, salut tout le monde.
Comment ça va aujourd'hui ?
Très bien, et toi ?
Eh ben impeccable, impeccable, prêt pour une super émission, bien entourée évidemment, avec pas mal de sujets. Hein. Aujourd'hui, on va parler justement d'un... On va vous faire découvrir, alors pas découvrir je pense, plutôt redécouvrir un musicien bien connu des Mayennais. Claire, c'est toi qui l'as interrogé.
C'est ça, c'est Mathieu Cullen, un professeur en fait de conservatoire à Laval, donc voilà, un professeur. Et en fait, il a sorti un titre, donc trop bien, et en fait, je l'écoutais sur YouTube et je me suis dit... Là, on a un sujet, on tient quelque chose. Et bah, je vous l'invite à l'écouter tout à l'heure. Je l'ai mis avec le son et tout, donc vraiment intéressant et cool.
C'est un beau travail d'enquête journalistique en tout cas. Et puis des bons conseils musicaux de Claire. Il n'y aura pas que ça. On va parler aussi du bistroquet de Graines d'Envie qui ouvre, ce sera à Mêlée du Maine et à partir de demain soir. On va justement parler de ce projet. Et puis, alors là, on était à Mêlée du Maine. On va voyager un petit peu... toujours dans le sud Mayenne, du côté de Château-Gontier, à L'Outil en Main. L'Outil en Main, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette association qui propose aux enfants de découvrir des métiers manuels grâce à des professionnels retraités, donc qui connaissent très bien justement leur mission. Et on verra justement qu'ils recherchent des nouvelles recrues pour la rentrée dès septembre. Et oui, on peut s'inscrire dès tout de suite. Et puis, en fin d'émission, ne manquez pas, bien sûr, la chronique de Juliette. Juliette, est-ce que tu peux nous teaser ça en quelques mots ?
Eh bien, on va parler de la protection des océans.
Ah bah ça c'était, c'est vraiment du teasing, là tu respectes à fond la protection des océans, parce que oui, il y a un autre océan qu'on vient de découvrir, je sais pas si vous l'avez, si vous le saviez en tout cas, mais justement Juliette va nous parler de tout ça tout à l'heure.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, on peut laisser tomber le masque en plein air dès aujourd'hui.
Et oui, il n'est plus obligatoire en extérieur, annoncé hier du Premier ministre, sauf dans des situations de promiscuité comme les regroupements, les lieux bondés ou les files d'attente. Autre annonce faite par Jean Castex, le couvre-feu à 20h sera levé dès ce dimanche, soit 10 jours plus tôt, mais les protocoles sanitaires, eux, sont toujours maintenus jusqu'au 30 juin.
Et la fête de la musique est d'ailleurs annulée à Renazé.
Le parc du Frêne n'est pas considéré comme un établissement recevant du public, seul lieu autorisé par la préfecture pour accueillir des fêtes en plein air, la fête de la musique de Renazé qui devait se tenir demain vendredi.
Convoquer Place Beauvau pour avoir mal distribué la propagande électorale.
C'est ce qui attend l'entreprise Adrexo, qui sera donc entendue par le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a adressé les excuses du gouvernement aux candidats concernés, puisque début juin, plusieurs centaines d'enveloppes de propagande pour les élections départementales avaient été découvertes dans une poubelle à Laval. Elles étaient normalement destinées aux électeurs du canton de Loiron.
C'est le moment de s'inscrire pour les bus scolaires.
Si votre enfant prend les transports scolaires du réseau régional Alléop, vous pouvez l'inscrire en ligne pour obtenir son abonnement annuel, et ce jusqu'au 18 juillet. Au-delà de cette date, une majoration de 20€ sera appliquée. Une nouvelle carte sera envoyée cet été aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, il suffira de recharger votre carte que vous avez déjà. Tarif annuel en Mayenne, 100€ pour le premier enfant et 90€ pour le deuxième. Une gratuité dès le troisième enfant par famille. Inscription en ligne sur alleop.paysdelaloire.fr.
Des courses hippiques aujourd'hui dans le Haut-Anjou.
Et oui, ça se passe à l'hippodrome de Cran en ce moment d'ailleurs pour l'ouverture de la saison hippique depuis 11h30. Une réunion premium avec 6 courses plate et 2 courses d'obstacles, restauration sur place et jauge limitée à 1000 spectateurs, donc pas besoin de passe sanitaire.
Et Marie, 8 mois après l'ouverture de son épicerie, Graines d'Envie propose aussi un bistroquet.
À Mêlée du Maine, ils sont une quarantaine de bénévoles à faire vivre leur épicerie locale et bio, qui a ouvert le 3 novembre dernier. Nouvelle étape du projet à partir de demain, 18h, l'ouverture d'une partie bar et collation les vendredis soirs, uniquement réservée aux adhérents. Une évolution logique pour Claudine Tenin, bénévole de l'association Graines d'Envie depuis cet été.
Ce qu'on appelle le bistroquet, c'est en fait un petit bistrot, mais on n'a pas de licence, donc on est une association. On va proposer uniquement des boissons locales, bière locale, uniquement mayonnaise, je dirais même, et des jus de fruits. Et en fait, on propose aussi une scène ouverte, c'est-à-dire que pour que ce soit festif et agréable, en fait, on propose aux musiciens de venir animer les soirées. Graines d'Envie, c'est avant tout les produits locaux. On a énormément de produits mayennais. On est en bio à plus de 80%. On n'aura pas d'argent directement. On va faire avec un système de jetons. Voilà, on essaie de trouver un peu nos solutions pour que ce soit plus facile.
En fait, l'espace bar est ici. Après, on a un espace, une pièce où c'est plus pour les consommations. Les gens qui viennent boire un verre, ce sera exclusivement les vendredis soirs et pas tous les vendredis soirs. Donc sinon, on a une petite terrasse dehors, tout cet espace extérieur qui n'est pas très grand, mais qui a le mérite d'exister et en fait qui est attenant à cette pièce ici avec le bar, quoi. En fait, c'est pour créer du lien. C'est aussi l'esprit de l'épicerie, c'est qu'en fait, il y a des gens, que ce soit un lieu de rencontre aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas que le bistroquet. On veut en faire un lieu vivant, un lieu de rencontre et d'échange. Pour moi, c'est super parce que ça m'amène à rencontrer plein de gens qui ont le même type d'idéologie que moi, en fait. On se retrouve à travers de ces valeurs-là, en fait, de tout ce qu'on vient de nommer avant. C'est un autre univers aussi, sur mon temps libre. Et puis aussi, je m'apercevais que je faisais pas mal de kilomètres aussi pour aller chercher différents produits. J'ai toujours été sensible au terroir, en fait, au local.
Et c'est le cas de tous les bénévoles investis dans l'association qui n'emploie pour l'instant qu'une personne à peine à temps plein. Si les conditions sanitaires s'assouplissent, un espace jeux et lecture devrait bientôt ouvrir, tout comme un espace atelier DIY fait maison, en bon français. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook Graines d'Envie 53. Et puis comme promis au début de l'émission, on va parler de ce nouveau projet musical mayennais sorti il y a quelques semaines. Claire, que tu nous proposes de découvrir.
Et oui, Mathieu Collen, je vous l'ai dit, est professeur de guitare au Conservatoire de Laval. Il a sorti un tout nouveau titre qui s'appelle Phil, avec un nouveau groupe appelé Locomotive. Mais pourquoi ce nom ?
Parce que c'est long à démarrer. Parce qu'il y avait, voilà, surtout à la période, c'était compliqué. Et puis, voilà, passé un certain âge, on se rend compte que travailler ensemble à distance et tout, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de jouer dans Easy Peasy quelques années. Et donc là, ça a commencé à travailler à distance avec des gens qui n'étaient pas toujours dispo. Et du coup, c'est toujours beaucoup plus long. Et là, je trouvais qu'avec Locomotive, on avait du mal à trouver nos sons. Donc on s'est dit, je me suis dit, tiens, Locomotive, ça colle bien parce que c'est toujours une fois que c'est parti, mais c'est toujours long à démarrer. Musicien depuis de longues dates en Mayenne, donc j'ai commencé un peu la musique avec le reggae, après j'ai monté un groupe de swing manouche qui s'appelle Les Fils Canouches avec lequel j'ai vécu pendant des années. Sur les routes, des concerts. Ensuite, après, j'ai eu un projet folk qui s'appelle Jack and Lumber qui a aussi tourné pas mal. Après, j'ai joué dans des différentes formations comme le Marabout Orchestra, Tears Factory. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de jouer des projets où tout le monde travaille en même temps, tout le monde compose en même temps. J'avais envie de faire mes projets à moi. Et donc là, j'ai composé beaucoup de chansons, beaucoup d'instrumentales dans le style musique du monde. Donc la musique de l'Est et mélange flamenco d'un projet qui s'appelle Gibraltar qui est sorti l'année dernière, donc pas au meilleur moment. Et puis tout récemment, j'ai aussi mon autre projet en parallèle avec mes chansons, mes titres qui s'appelle Locomotive. Et là, c'est de la musique plutôt électro, rock, ambiant. Ouais. Je suis spécialiste de rien, mais j'aime un peu de tout. C'est un mélange, j'aime bien mélanger, puis évoluer aussi dans les projets, pas toujours faire la même chose. Donc là, voilà, c'est des projets un petit peu plaisir, qui me font plaisir. Voilà, je fais enfin la musique que j'écoute, quoi. En regroupant plein d'images, j'avais envie de faire passer un petit message, mais après chacun l'interprète comme il veut, donc voilà. on part de la nature et puis bah, on arrive. Chacun interprète comme il veut sur la fin, mais voilà, il y a un côté évasion et puis un côté réalité aussi. Il y a Alex Garnier à la batterie, Jean-François Péculier à clavier basse et puis Julien Gauthier à la guitare électrique.
Après Mathieu Collen, on écoute Suzanne avec Petit Gars.
Comment tu vas leur dire, ça fait des jours que tu ressasses. Un dimanche en famille, ton père sera assis à sa place. Il te dira, ça va mon fils, t'as pas l'air, ton assiette. Alors dis-nous, ce qui cette fille que t'es fait tant tourner la tête. Entre l'entrée et le rôti, tu vomiras la grande nouvelle. Tu répondras,
papa, cette fille c'est Samuel.
Mamie qui règne au bout de la table dira qu'elle n'a plus d'ouïe, que tous les plans ont refroidi. Ton père devient tout blanc, t'avais prédit le scénario. Encore plus blanc que la crème qui fond sur le gâteau. Tu leur as coupé l'appétit, ils digèrent tous le gros ragot. Imaginez, le fils prodige est un homo. Ils te regardent tous comme un inconnu planté là dans le salon. Alors c'est toi qui fais la fille ou le garçon. T'es gêné, t'as capté dans les yeux de ta mère qu'elle se demande ce qu'elle a pu louper pour faire un fils pédé. Comme toi, je veux pas d'une tapette sous mon toit. Dégage, va te faire soigner. Surtout ne reviens pas, tire à tourner dans des boîtes à pédales, dans des backrooms sales. Je te passe les détails, là-bas tu verras le sida. Et plus à la mode que Madonna, tu finiras en string, à danser sur un char, à gueuler avec une bande de folles que t'es fière d'avoir une tare. Et moi j'ai trop honte, tu m'as sali, ne me dis pas, t'as pas choisi. Des baffes en plus, aurait servi, mon fils est mort aujourd'hui. Tu croiseras des gendarmes qui traiteront de petites baltringues, des anciens potes qui se demandent si tu les matais à l'époque. Une foule en t-shirt rose et bleu qui te regardera comme un lépreux. Fais pas d'enfants, c'est contagieux, pense à ce que dira Dieu. Tu te feras passer à tabac, tabasser sur le boulevard gratuitement par trois lascars. T'es comme une clope sur le trottoir. Petit gars, reste droit sous le poids de la bêtise. Petit gars, n'écoute pas ce que ces gens disent. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, tu te fais petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, c'est trop petit.
C'était Suzanne avec Petit Gars dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on en parlait aussi, là aussi, en tout début d'émission, dans le sommaire, l'outil en main recrute, cette association qui propose de découvrir différents métiers manuels avec d'anciens professionnels aujourd'hui retraités, mais propose de découvrir à qui ? Aux enfants de 9 à 14 ans. Ils sont 14 dans l'antenne castro-gontérienne à Saint-Fort, installée dans les ateliers municipaux depuis désormais 3 ans. Cette année, malheureusement, comme d'autres associations, ils ont été touchés par la crise sanitaire et ils espèrent une année un peu plus normale où ils pourront faire leurs ateliers tous les mercredis après-midi en 2021-2022. Reportage lors de la toute dernière séance de l'année, lors de la remise des réalisations des jeunes.
Je suis Philippe Bichot, menuisier, retraité, et je suis le président de l'outil en main de Château-Gontier sur Mayenne. Sur Château-Gontier, ça fait 3 ans. Auparavant, moi, je participais à Laval.
Est-ce qu'on peut expliquer déjà le principe de l'outil en main pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, l'outil en main, c'est national. En France, on a 217 associations au niveau français. On a 5000 bénévoles et on tourne à peu près 3000 enfants. Et ça se passe tous les mercredis matin, tous les mercredis après-midi, de 14 à 16 heures. C'est 2 heures d'activité. Suivant les associations, on a des ateliers de menuiserie, peinture, électricité, plein de tout ce qui est du bâtiment, de la cuisine, des couturières, des maroquiniers, et suivant les associations, suivant les bénévoles qu'on a dans chaque association. Voilà. Nous, à Château-Gontier-sur-Mayenne, nous avons menuiserie, peinture, électricité, plomberie, cuisine, couture, mécanique auto. Voilà. Et carreleur. Les enfants sont 3 semaines dans chaque activité. Ils passent 3 semaines et au bout de 3 semaines, ils changent. On change d'activité. Comme ça leur permet de passer dans toutes les activités. Et au cours de l'année, bon, après, ils vont prendre ce qu'ils ont vu au départ, mais ils sont sûrs de faire toutes les activités dans l'année, de ce qu'on a, nous, ici. Et éventuellement, peut-être qu'en septembre, nous allons avoir les jardins, jardinerie.
C'est juste à côté, en fait.
Oui, on a des serres ici, hein, parce que les locaux nous sont prêtés par la ville de Château-Gontier.
La particularité, en tout cas, de cette association, c'est que, justement, ces ateliers sont faits par d'anciens de la profession, en fait, des gens de la profession.
Oui. C'est que des bénévoles de la profession, soit anciens artisans, soit des ouvriers, des anciens ouvriers.
Et alors vous-même, pourquoi avoir voulu vous engager justement dans cette association auprès des jeunes ?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est une découverte. C'est une découverte parce qu'on prend des jeunes de 9 à 14 ans. C'est une découverte seulement. C'est pour voir ce que c'est qu'un métier. C'est tout. On ne les oblige pas à rester dans le métier, loin de là. Hein. C'est juste une découverte pour tout le monde. Et après, bon, il y en a qui continuent après, quelques années après, puisque bon, à 14 ans, ils n'ont pas fini la scolarité. Et après, ils reviennent peut-être dans un métier qu'ils ont déjà vu. Le but, c'est ça.
9 ans, ils sont encore jeunes. L'idée, c'est vraiment de leur faire, oui, une initiation, une découverte, comme vous disiez.
Complètement. Ça, et ils apprécient. Hein. Ils apprécient beaucoup, que ce soit garçon ou fille. Hein. Vous savez, les garçons qui font de la couture, c'est impressionnant. Hein.
Vous vous occupez de l'atelier menuiserie, qu'est-ce que vous leur faites faire par exemple ?
Eh bien, c'est-à-dire que vous voyez ici, là on a fait un porte-manteau, c'est un petit papillon qu'on a fait de la découpe. Ce travail-là, ils vont pouvoir le peindre. Quand ils vont en peinture, ils pourront le peindre. Nous avons des sous de plat en menuiserie et après le carreleur est fait dedans. On fait tout en lien. Ça permet dans l'activité, on se côtoie sur le bâtiment et bon, entre les plombiers, les peintres, les menuisiers, etc.
Justement, là, malheureusement, avec la crise sanitaire, vous n'avez pas pu faire autant que vous souhaitiez. Vous avez eu que quelques séances cette année, c'est ça ?
5. On a fait 5 séances cette année. C'est-à-dire que la première, il y a eu 3 semaines pour les premiers. Et puis après, il y a eu 2 semaines pour le second groupe. Et puis voilà, ça s'était terminé. Et c'est pour ça, les quelques travaux qui ont été faits, on les remet aux jeunes. Là.
Il y a combien de jeunes, justement, inscrits aujourd'hui ici à Château-Gontier ?
Nous avions 20 jeunes. C'est-à-dire que ça permet d'en avoir à peu près 3 dans 2 ou 3 dans les activités. Il y a des comme nous en menuiserie, si on a 3 jeunes, on est obligé d'avoir 3 bénévoles, puisqu'on a des outils qui sont coupants. Il faut faire très attention. Par contre, un peintre, il peut en avoir 2 avec un pinceau. C'est pas dangereux, hein, quel que soit. Et l'électricien, c'est pareil, il peut en avoir 2. Et en mécanique et cuisine, c'est pareil, il peut en avoir 2. Voilà. C'est surtout nous, en menuiserie, qu'on est obligé d'avoir un jeune et un bénévole. Sécurité, oui, avant tout.
Là, il y a des machines derrière nous, tout ce qui est matière première aussi. Comment vous fonctionnez ?
Eh ben, c'est-à-dire que nous, on récupère par les entreprises, hein, qui nous donnent de l'électricité ou on achète un peu de produits quand même. Hein. Comme moi, en menuiserie, bon, moi, avec l'entreprise QR de Saint-Plé, ils m'ont donné pas mal de bois. Et puis après, moi, c'est moi qui le travaille. Et ça me permet, vous voyez, j'en ai plein de commencer là-bas.
Travailler en lien avec les jeunes, en tout cas d'avoir ces séances, de transmettre aussi tout ce que vous avez appris, ça c'est intéressant aussi pour vous ?
Bah, c'est-à-dire que moi, je suis un ancien professionnel, j'avais une entreprise auparavant. J'ai toujours fait de la formation. J'ai toujours eu des jeunes en formation. Alors moi, j'aime bien partager mon savoir-faire à nos jeunes. C'est surtout ça qui est important à l'heure actuelle. C'est primordial parce que bon, on en a besoin.
J'imagine qu'ils n'ont pas forcément encore d'idées précises, et c'est normal, ils sont très jeunes, de ce qu'ils veulent faire. Donc là, ils sont peut-être ouverts, peut-être plus que quelqu'un qui aura déjà une idée bien définie.
Ah oui, mais là, ils sont ouverts complètement. Ça, de ce côté-là, ils voient ce que c'est qu'un métier. C'est le but de l'outil en main.
Et donc comment ça se passe justement si on veut s'inscrire pour l'année prochaine, si on est intéressé, aussi bien pour être bénévole et pouvoir, pourquoi pas, avoir un autre atelier, ou si on est un enfant de 9 à 13, à 14 ans pardon, et qu'on veut, qu'on est intéressé.
Eh ben, c'est-à-dire que nous, on a des flyers qu'on va distribuer dans, un petit peu partout. On essaie de garder les 20, les 20 jeunes. On ne va pas dépasser 20, parce que vu le nombre de bénévoles, je suis obligé de me limiter en nombre de jeunes. À Laval, ils sont presque 30 jeunes, mais ils sont plus 40 bénévoles. Alors c'est pour ça, c'est toujours en proportion.
Je suis Patrick Lot, donc j'ai 62 ans, donc je suis à la retraite. Et ma profession, en fin de compte, j'étais cuisinier de profession. Philippe m'a invité, en fin de compte, à rentrer dans l'outil en main pour animer, en fin de compte, le cours de cuisine. Et les enfants, ils adorent. Déjà d'une, parce qu'ils savent que de toute façon, ils auraient un petit goûter à 16 heures. Donc on prépare un goûter pour les enfants, mais sachez quand même qu'on prépare aussi le goûter pour les adultes.
Comment ça se passe, juste pour avoir une idée un petit peu, lorsqu'on est en atelier cuisine ici avec l'outil en main?
Alors déjà d'une, on établit en fin de compte une recette. D'accord ? Donc ils partent en fin de compte avec la recette du jour. Donc on fait deux recettes à chaque fois. D'accord, on va faire par exemple une mousse au chocolat et puis on va faire un cookies. Donc on a, si on a quatre enfants ou si on en a trois, donc on essaie quand même de les faire travailler sur les deux thèmes. D'accord. Et puis ben, par contre, on les accompagne dans l'élaboration parce que bon, c'est des enfants entre 8 et 12 ans. Donc casser des œufs pour eux, des fois, c'est la découverte. Alors séparer le blanc et le jaune, c'est pas facile. Et puis ben, ils apprennent à peser, à mélanger, à dresser, à foncer des fonds de tarte, tout ça. Et puis ben, éplucher et faire la vaisselle, parce qu'on leur dit bien que de toute façon, la cuisine, c'est pas que de faire et de manger, c'est aussi, en fin de compte, ben, y a tout le... Tout ce qui est autour, en fin de compte. Donc, mais là-dessus, ils sont très, très attentifs. Ils sont, moi, depuis qu'on fait ça, depuis deux ans, là, on a des enfants qui sont participatifs. Alors, dans les autres ateliers, je pense que c'est la même chose. Mais nous, ils sont très joyeux, en fin de compte. Oui, et puis, ils nous demandent, vous savez quoi, on peut goûter avant les autres. Donc, ça veut dire qu'ils savent qu'ils peuvent goûter avant tout le monde. Alors, ils ont double ration. Alors là, ils sont super contents. Ils font les recettes à la maison aussi. Alors il y a des enfants qui font et qui font des recettes avec les parents, qui travaillent, qui font un petit peu de cuisine, qui aident leur maman et tout ça. Et ils amènent les recettes et voilà, ils sont contents.
Donc d'apprendre à des jeunes quand même, des jeunes enfants, en tout cas, ou des jeunes adolescents pour certains, s'ils ont 12-13 ans, les bases de la cuisine ou en l'occurrence de la pâtisserie. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? J'imagine que oui, si vous êtes là.
J'ai toujours fait. Parce qu'en fin de compte, c'est un savoir-faire qu'on transmet. Parce que moi, je suis disciple d'Escoffier. Donc, disciple d'Escoffier, c'est notre devise, en fin de compte, c'est transmettre notre savoir. Donc, on le transmet, en fin de compte, à des apprentis qui ont 17, 18 ou 19 ans, ou faire découvrir, en fin de compte, le métier à travers ces petits ateliers. Après, ça leur donnera peut-être pas une vocation pour faire ce métier-là. Mais au moins, il y en a peut-être, en fin de compte, qui auront le déclic de se dire... Pourquoi pas? Alors après, c'est vrai que sur le temps imparti qui nous est donné, en fin de compte, deux heures, faire de la cuisine, c'est compliqué. On ne va pas faire un bœuf bourguignon ou même une quiche. La quiche, on l'a déjà fait. On a fait déjà la quiche, déjà. Mais c'est un peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, le souci, c'est que comme ils sont jeunes, c'est moins attractif.
Vous pensez qu'il y en a d'autres qu'on va retrouver plus tard en cuisine?
Peut-être, mais je peux pas vous dire là-dessus. Parce que ça, c'est une vocation. Il faut que ça vienne. Il faut vraiment qu'ils ont le déclic de se dire bah, je veux faire ça, quoi. Parce que bon, le métier de bouche aujourd'hui, le métier de la cuisine, je ne veux pas dire qu'il est en perdition, mais c'est quand même compliqué, même si on voit les grandes émissions, Top Chef, tout ça. Voilà.
Je m'appelle Tino Leroy et j'ai 12 ans. Je suis en 6e. Et puis je viens à l'outil en main le mercredi. J'ai appris beaucoup de métiers manuels. Il y a de la menuiserie, il y a de la plomberie, de l'électricité, la mécanique. On a démonté un moteur, on a démonté aussi des voitures. Et Je savais un petit peu parce que avec mes parents, on bricole un peu, mais sinon, pas tout. Oui, l'année prochaine, je vais me réinscrire parce que j'ai bien aimé. Bah déjà, pour plus tard, savoir ce qu'on va faire comme métier. Parce que si tu sais pas, après, bah t'es mal. Je vais être peut-être mécanicien de vélo, donc ça va être bien, je pense.
Stéphanie Leroy, donc je suis la maman de Tino qui a fait l'outil en main. Il est passionné par le bricolage, donc du coup je voulais vraiment qu'il découvre plusieurs choses avec des professionnels pour pouvoir décider plus tard de son orientation surtout, parce que c'est vrai que dans le système scolaire qu'on a, je trouve que c'est pas du tout assez appuyé et présenté. Et nos jeunes, quand ils sont en troisième, ils doivent s'orienter, et ben là ils savent pas, parce qu'ils connaissent pas les métiers. Donc c'est pour ça, avec mon mari, on s'est dit que lui faire découvrir des métiers manuels, déjà lui qui était intéressé par tout ça, eh bien ça pourrait l'aider dans son orientation pour plus tard. Super content, hein, oui, il adore. C'est pas assez long d'ailleurs, 2 heures. Toujours très court. Non, ils sont tellement intéressés et lancés. Et en fait, les professionnels donc retraités là, de l'outil en main bah, sont passionnants parce que c'est vrai qu'ils ont un métier dans les mains en or et le faire découvrir à des jeunes, je pense qu'ils sont fiers. Donc les jeunes, enfin nous en tout cas, Tino est très content qu'on puisse lui partager de l'expérience comme ça. Et c'est vrai qu'on trouve du sport de tout domaine, mais apprendre du métier de tout domaine, non pas forcément. Ils sont souvent trop jeunes en fait à cet âge-là. Mais c'est pas à 15 ans que du jour au lendemain on va lui dire vers quelle branche tu pars pour t'orienter professionnellement, il saura pas. Là on saura au moins s'il veut faire du métier manuel ou s'il veut plus partir vers un métier intellectuel, on verra. Pour l'instant il part sur la mécanique, peut-être mécanique vélo, moto d'après ce que j'ai compris. Donc bah, faudra qu'on continue à se renseigner. Tout ça, ça aide, hein. Le fait de le pratiquer en fait, parce qu'un enfant qui est toute la journée sur de l'informatique ou enfin des jeux vidéo, il sait pas ce qu'est le monde. C'est vrai que le monde aujourd'hui est tellement compliqué que des jeunes comme ça, ils sont un petit peu perdus dans l'adolescence. Donc si en plus on leur ajoute de choisir un métier qu'ils n'ont jamais découvert et c'est totalement néant, bah, c'est pas simple. Donc là, il aura au moins eu l'opportunité.
Une opportunité donc qui reprendra dès le mois de septembre, c'est bien tous les mercredis de 14h à 16h à Saint-Fort. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de Philippe Bichot. C'est au 06 07 10 73 24, évidemment son numéro de téléphone. On revient juste après une reprise d'Aretha Franklin par Calypso Rose, I Say a Little Prayer.
Never. my bread. Yes, I'm my bread. Together, 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 together.
I Say a Little Prayer de Calypso Rose, une reprise évidemment d'Aretha Franklin, dans un autre genre qu'on aime tout autant ici sur l'autre radio. C'est maintenant l'heure de la chronique de Juliette, une chronique autour de l'environnement, avec une question. Y a-t-il 4 ou 5 océans sur Terre ? Des scientifiques ont tranché il y a quelques jours, c'est ce que tu nous expliques Juliette.
Et oui, vous en avez peut-être entendu parler, les scientifiques de la National Geographic Society ont reconnu officiellement l'existence d'un cinquième océan sur notre planète. C'est l'océan Austral qui entoure l'Antarctique. Alors bien sûr, cet océan ne vient pas juste d'apparaître. Seulement, sa délimitation ne faisait pas consensus à l'international et les scientifiques ne le reconnaissaient pas comme un océan à part entière. Sa surface fait plus de 20 millions de kilomètres carrés, l'eau y est plus froide que dans les océans voisins, et il renferme des écosystèmes marins uniques, mais surtout fragiles. Et c'est justement pour attirer l'attention sur la fragilité de cette région du globe que l'océan Austral a été reconnu. La date n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard, puisque cette officialisation s'est faite lors de la Journée mondiale des océans. Car l'océan Austral joue un rôle crucial dans l'équilibre climatique. Il absorbe un tiers du carbone atmosphérique au niveau mondial, et les courants qui le traversent permettent de réguler la température des océans voisins.
Effectivement, c'est très intéressant tout ça, Juliette, mais quel rapport avec, ici, la Mayenne ?
Eh bien, l'océan, aussi loin soit-il, a un impact sur notre quotidien. Par exemple, 50% de l'oxygène que nous respirons vient directement de l'océan, d'où l'importance de préserver ces espaces. Mais aussi parce que nos actions ont des conséquences directes sur les océans, même si on habite en Mayenne. Surtout si l'on parle de la pollution des mers, qui provient de nos actions sur Terre. D'après Greenpeace, chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. Il y a quelques années, ce n'est pas un nouvel océan qui faisait l'actualité, mais un nouveau continent de plastique. Un septième continent en plein milieu du Pacifique qui fait plus de 3 fois la taille de la France.
Alors, tous les chiffres que tu viens de nous citer sont un peu déprimants, on va pas se le cacher. Mais heureusement, il y a quand même un petit rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il est possible de faire à son échelle pour réduire la pollution ?
Eh bien déjà, si vous êtes fumeur, ne jetez pas votre mégot de cigarette par terre. Car votre mégot voyage sans doute plus que vous. Peu importe où vous le jetez, il se retrouve très rapidement dans l'océan. Le problème, c'est qu'un mégot pollue à lui tout seul jusqu'à 500 litres d'eau. Les cigarettes sont donc une source majeure de pollution des océans. Vous pouvez aussi réduire au maximum votre utilisation du plastique. Par exemple, en n'achetant plus d'eau en bouteille, mais en utilisant une gourde à la place que vous pouvez réutiliser. Parce que les bouteilles plastiques arrivent en tête du classement des déchets ménagers que l'on retrouve le plus dans la mer. Le plastique est aussi sûrement très présent dans votre salle de bain, en particulier les microplastiques contenus dans les produits cosmétiques. Très difficiles à recycler, ils finissent souvent dans la mer et sont quasiment impossibles à ramasser du fait de leur petite taille. Il existe maintenant des applications telles que Clean Beauty ou Bead the Microbead que vous pouvez télécharger pour vérifier le contenu de vos produits. Vous pouvez aussi fabriquer vos cosmétiques par vous-même. YouTube et de nombreux sites internet regorgent de tutos pour vous aider. Et cet été, vous allez peut-être partir en vacances à la plage. Et qui dit plage dit crème solaire. Et là encore, malheureusement, leurs composés chimiques sont très polluants pour les océans. Vous pouvez opter pour une alternative à la composition plus respectueuse de l'environnement. On peut notamment en retrouver en pharmacie ou en magasin bio. Autre idée, participer à des opérations de nettoyage des plages. De nombreuses assos en organisent partout en France et vous pouvez aussi par vous-même prendre un peu de temps pour ramasser les déchets sur la plage. Alors bien sûr, ces petites actions ne vont pas tout changer, mais elles permettent de sensibiliser et d'éveiller les consciences autour de vous. Car la meilleure méthode pour protéger les océans, c'est peut-être déjà d'en parler.
Et tu l'as très bien fait Juliette, merci beaucoup pour cette chronique. Là je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire attention cet été sur la plage et ailleurs, en tout cas essayer de mieux protéger les océans. On part sur un tout autre sujet du coup, on parle de sport maintenant et on est, ça y est, désormais à 1 mois et demi des Jeux Olympiques. L'occasion de dresser le portrait des sportifs mayennais engagés dans la compétition. Après Gabriel Bordier hier que vous avez entendu qui est qualifié pour le 20 km marche, on passe au cyclisme sur piste et aux Jeux paralympiques. Pour sa dernière compétition avant sa retraite sportive, le multimédaillé François Pervis a choisi d'accompagner en tandem Raphaël Beaugilet, un champion cycliste malvoyant. Une expérience bien différente des JO de Rio valide en 2016, où il avait été médaillé de bronze, mais qu'il ne regrette absolument pas.
La Fédération française de cyclisme ne comptait plus sur moi pour faire les Jeux olympiques chez les valides. Et donc, ça a intéressé fortement la Fédération française de handisport, qui m'a contacté et qui m'a proposé ce défi d'accompagner un malvoyant et d'aller chercher une médaille aux Jeux paralympiques. C'est un petit peu différent, mais malgré tout, ça reste un sport où il faut développer les qualités physiques avant tout. Donc on s'entraîne beaucoup chacun de notre côté avec mon binôme et on se rejoint une à deux fois par semaine sur la piste à Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire des entraînements de coordination parce qu'on est quand même sur un tandem. On fait des sprints à 70-75 km/h. Il faut beaucoup de coordination, donc il faut un petit peu d'entraînement quand même. Mais au-delà de ça, mes semaines et mes cycles d'entraînement ressemblent à ce que je pouvais faire par le passé. C'est des sprints en solo, c'est ma musculation tous les deux jours. J'ai finalement pas beaucoup de modifications. C'est vrai qu'au début, en tandem sur piste, en pignon fixe, c'était pas évident. J'avais l'impression vraiment de conduire à semi-remorque sur la piste. Évidemment, ça rend pas du tout de la même façon. Le rendement, le pilotage, il y a beaucoup de vibrations dans le guidon. C'est délicat, surtout dans les virages. Quand on passe un virage à 75 km/h, on était énormément déporté vers l'extérieur. Donc, il a fallu se réhabituer un petit peu à forcer pour tenir la corde dans les virages. Pendant très longtemps, j'ai eu une appréhension. Appréhension de chute, appréhension de savoir bien manier le vélo. Mais maintenant, ça va. Ça s'est fait en mars 2020. Les Jeux n'étaient pas encore repoussés. Donc, à la base, on n'avait que 6 mois d'entraînement. Et puis finalement, puisque les Jeux ont été repoussés d'un an, nous sommes passés de 6 mois à 18 mois de préparation. Mais finalement, pour nous, les Jeux Olympiques, Paralympiques, repoussés d'un an, c'était une aubaine pour nous. Parce qu'au lieu d'avoir 6 mois, on avait 18 mois de préparation. Donc on a pu progresser sur la position, sur le matériel, sur l'entraînement aussi, sur notre coordination. Et donc ça a élevé notre niveau et nos prétentions aussi. Puisque maintenant, on y va vraiment pour aller décrocher une médaille. On a effectué au Championnat de France dans des conditions atmosphériques très très mauvaises la 3e performance mondiale. Donc on se dit que quand on sera prêt avec encore un meilleur matériel, une meilleure position, parce qu'on va encore changer de matériel prochainement, on se dit que on a largement de quoi faire un podium. Maintenant, c'est toujours bien d'aller chercher le haut du podium, aller chercher une médaille d'or. Mais en tout cas, si on fait pas podium, on se sera loupé le jour J. J'ai vécu au Japon 6 ans. J'ai vécu même dans les 10 kilomètres autour du vélodrome olympique où il y aura les Jeux à Tokyo, là. Donc, c'est un endroit que je connais très, très bien. Comme j'ai dit, pendant 6 ans au Japon, j'ai voyagé partout dans le pays. Ma fille porte un nom japonais. J'apprends à parler le japonais aussi. Je prends des cours de japonais. Donc, pour moi, le Japon, c'est une valeur sentimentale et sportive vraiment très importante. Donc, si je pouvais finir ma carrière au Japon sur une médaille olympique, effectivement, ce serait pour moi la plus belle des fins de carrière.
Le cycliste de 37 ans espère donc décrocher une médaille lors de sa course prévue le 28 août, mais il arrivera au Japon un peu plus tôt, puisque François Pervis commentera les Jeux Olympiques de cyclisme sur piste pour France Télévisions. Ce sera du 2 au 8 août prochain. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec toi Claire. Et Claire, on prépare notre week-end qui va être bien chargé. Un week-end dès demain soir, on va au marché.
Et oui, un marché nocturne à Changer. Vous y retrouverez de la vente de produits locaux gastronomiques et artisanaux, de la restauration sur place et même de la musique et des déambulations qui sont au programme avec le groupe FPOC et une fanfare. Ce sera au Parc des Ondines demain vendredi à partir de 18h.
Et ensuite, on prend la direction de Château-Gontier pour un concert.
Les classes orchestres du collège Jean Rostand et du lycée Victor Hugo vous propose d'écouter leur travail de cette année, des grands classiques mais aussi des morceaux originaux, l'occasion aussi de fêter la sortie de leur CD Voyage Inattendu. Ce sera demain vendredi à 20h à la salle des fêtes de l'espace Saint-Fiacre décidément de Château-Gontier et il faut réserver votre place au 06 80 84 85 73.
Après tous ces concerts, tu nous proposes Claire de prendre un peu l'air au musée Robert Tatin.
Vous avez rendez-vous ce week-end dans l'incroyable musée de Caussel-Vivien pour admirer les œuvres de Loïc Baudin, sculpteur. Ses œuvres en mouvement nous incitent à imaginer, rêver et décrypter ce qu'il appelle l'énigme du lynx. Pour le sculpteur, toute œuvre est une énigme. Le lynx a une vue tellement perçante qu'il peut voir à travers les murs. Décrypter, c'est comprendre le fond est vide, la forme c'est le fond. Tout est sous nos yeux. Fin de citation. C'est à retrouver de ce samedi 19 juin au musée Robert Tatin.
Merci beaucoup Claire, j'avoue que ça m'a laissé assez circonspecte, perplexe cette citation. On est le jour de... Les lycéens ont bachoté ce matin sur... en tout cas, pas bachoté, on espère pour eux justement, oui, mais en tout cas, ont planché sur l'épreuve de philo ce matin. Eh ben, l'épreuve, c'est que moi, je n'aurais pas aimé être à leur place, puisque déjà, cette phrase me laisse bien... Bien, oui, je ne sais, j'arrive même pas à trouver le mot.
On n'a plus les mots là. C'est
mais en tout cas, ça intrigue et ça donne envie d'aller voir cette exposition prévue ce week-end au musée Robert Tatin à Cossé-Louis-Bien. Si vous avez d'autres initiatives, évidemment, on peut pas parler de tout et on n'est pas toujours au courant de tout. Si vous avez en tout cas d'autres initiatives à nous partager, n'hésitez pas à laisser un message vocal sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Et puis rendez-vous sur notre compte Instagram L'Autre Radio. Et d'ailleurs, le tirage au sort pour les places du nouveau spectacle d'Anne Roumanoff. Les deux places étaient donc à gagner pour le 24 juin à Château-Gontier. Le tirage au sort a été réalisé. Vous allez être contacté très bientôt pour le gagnant ou la gagnante. Donc restez connectés et bien sûr, un grand bravo. Merci beaucoup Juliette et Claire pour cette émission. On se retrouve demain. Bonne journée.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde.
À demain.
Et on se retrouve évidemment demain à 12h15 comme d'habitude. Mais avant, à l'antenne à 19h, il y aura la grande séduction en compagnie du contrebassiste Stéphane Kerecki, suivi à 21h de l'émission All Blues. Et donc, nous, rendez-vous demain à 12h15 au même endroit. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage. Invité interview. Voilà, c'est la JT du local.